Chers frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre, ça s'appelle une homélie. Jésus vient de faire un sermon. Donc, j'ai rien à rajouter. Ouais, parler après le maître, quand même, c'est extrêmement risqué. Toutefois, comme l'Église le demande, il faut interpréter les Écritures. Qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus dans ce texte? Et d'ailleurs, quelle résonance est-ce qu'on peut lire dans la première lecture? C'est tout simple. Le Seigneur nous montre comment nous devons aimer. Ni plus, ni moins. Vous voulez me suivre? Vous voulez me suivre vraiment? Alors, voilà comment est-ce qu'il faut aimer. Aimer ses ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Etc., etc. Quand on vous frappe sur une joue, tendre l'autre. Prêtez sans idée de retour. Franchement, ne serait-ce que celle-là, chers frères et sœurs. Avouez, ça pique un peu, non? Un tout petit peu. Je pense que tous, autant que nous sommes là, alors sauf les sœurs parce qu'on descend déjà au ciel, mais tous, autant que nous sommes, il y a une question qu'on se pose immédiatement. C'est bien joli, Seigneur, mais on fait comment? Moi, je veux bien aimer comme tu le demandes. Ça doit être possible puisque tu le demandes. Mais on fait comment? Alors, si vous voulez bien, je ne vais pas résumer parce que le texte qu'on vient d'entendre, il faudrait une retraite de 30 jours pour vraiment entrer dans la profondeur du texte. Mais il y a peut-être trois portes d'entrée, et vous verrez un ou deux exemples, une ou deux illustrations qui peuvent peut-être nous aider à aborder ce texte. Le premier, c'est la question de la pureté. Le Seigneur nous demande, c'est d'aimer de façon pure. Quand il dit aimer sans intention de retour, donner sans intention de retour, ça veut dire aimer de façon pure. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que quand on ne fait pas quelque chose de bien pour quelqu'un, on n'a pas envie d'avoir d'une façon ou d'une autre un petit retour? Pas moi, vous invitez un copain, vous invitez des amis à dîner, est-ce que par hasard ça ne vous fait pas plaisir quand le lendemain matin vers 9h, vous avez un petit texto qui vous dit « Hier soir c'était vraiment très sympa, un gros merci, j'espère qu'on recommencera bientôt ». Vous allez me dire « Ça c'est la moindre des politesses ». Oui, mais peut-être que pour celui qui a accueilli, il y a une attente. Il y a une espérance. Je vous donne un autre exemple. Imaginez deux chefs de village dans un pays imaginaire. Et des chefs de village qui s'accueillent pour tout simplement montrer leur puissance. Alors il y en a un qui accueille l'autre et puis qui va déployer un faste extraordinaire, des grands banquets, des grands voilà. Et l'autre est très content d'avoir pu... Mais en retour, il va inviter le premier. Mais pour montrer qu'il n'est pas le deuxième, mais le premier, il va faire un banquet encore plus extraordinaire. Une réception encore plus extraordinaire. Alors évidemment, l'autre va être content. Mais il aura l'impression d'être le deuxième. Alors il va inviter le premier à une réception encore plus extraordinaire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont tellement dépensé qu'ils sont ruinés, qu'il n'y a plus rien. Parfois, dans notre cœur, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On veut tellement aimer de notre façon, de notre point de vue, l'autre, que parfois on entre dans des affres de déception qu'on doit compenser, vous voyez. Quand on aime sans faire attention à ce que l'autre veut vraiment, à ce qui est à la fois bon pour lui et bon pour moi. Ça, c'est le deuxième point, c'est la liberté. Eh bien, on entre dans la tristesse, tout simplement. La liberté, aimer librement, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer en faisant du bien à l'autre, pas à nous. Et quand on fait du bien à notre façon pour l'autre, c'est pas à l'autre que nous faisons du bien, c'est nous, à nous, c'est nous que nous aimons à travers l'autre. Allez voir une chanson de Jean Schultes dans les années 80. Montez un petit peu le son et écoutez cette musique et faites attention aux paroles, parce que ça décrit exactement cette situation. C'est pas toi que j'aime, c'est moi que j'aime à travers toi. Et le Seigneur veut pas ça. La liberté, aimer librement selon le cœur de Jésus, selon le cœur du Seigneur, selon le cœur du Père, c'est donner avec justice. C'est pas se vider dans l'autre, c'est pas être généreux, c'est faire ce qui est bon pour l'autre. Et faire ce qui est bon pour l'autre, c'est forcément juste, c'est forcément ajusté. Je me souviens de cet homme, ce père de famille qui venait de se convertir, qui débarque un jour à mon bureau et qui me dit « Mon père, c'est extraordinaire, je crois en Dieu, machin, etc. Je suis riche, j'ai une famille nombreuse, 7 enfants, voilà, je voudrais tout donner comme c'est écrit dans l'Écriture, je voudrais tout donner au Seigneur. » Et il me glisse à ce moment-là un chèque de 40 000 euros sur mon bureau. Je lui dis « Mais vous avez vidé votre compte ?» Il me dit « Oui, comme c'est écrit dans l'Écriture. » Je lui dis « Ben, vous avez combien d'enfants ?» Il me dit « 7 ». Et il était content. Je voyais bien qu'il était content. Je dis « Juste une petite question comme ça en passant. Vous en avez parlé à votre femme ?» Et à ce moment-là, je vois qu'il baisse la tête. J'ai dit « Mais monsieur, c'est pas ce que le Seigneur veut. Soyez généreux, bien sûr. Donnez un peu de ce que vous avez, bien sûr. Mais la priorité, c'est le bien de vos enfants. C'est le bien de votre femme. En revanche, depuis quand est-ce que date le dernier restaurant avec votre épouse, en tête à tête ?» Et là, je vois à nouveau qu'il baisse la tête. Vous voyez, aimer pas en fonction de ce que je veux, mais en fonction de ce qu'il est bon de faire pour l'autre. Et là, on entre dans un domaine qui commence à être un peu plus compliqué, parce que c'est pas moi qui vais aimer, mais du coup, c'est Dieu qui va aimer en moi. Et là, on arrive dans une zone très, très intéressante, parce que c'est justement la zone où on va apprendre à aimer ses ennemis. C'est impossible d'aimer ses ennemis. Alors, petite parenthèse, aimer un ennemi, ça ne veut pas dire forcément à nouveau entrer en relation avec lui. Si c'est quelqu'un de pervers, si c'est quelqu'un de pas bon pour vous, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire aller à son contact, forcément. Mais on ne va pas au contact de Staline, vous voyez, on ne va pas au contact d'Hitler. On ne va pas au contact des gens qui peuvent vous tuer. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Ce que le Seigneur dit, c'est « Aime-le comme moi je l'aime. » Et du coup, on retrouve la question du début. Mais comment est-ce que je fais ? Il n'y a pas 36 solutions, chers frères et sœurs. La seule, c'est de faire comme Jésus. Sauf qu'on a un peu trop souvent l'impression que Jésus, vous voyez, il aimait de façon automatique les gens. Quand je dis qu'il aimait de façon automatique, ça veut dire qu'on peut avoir de temps en temps l'impression que Jésus n'avait pas de liberté, que Jésus n'aurait jamais pu s'opposer à la volonté du Père. Alors qu'il aurait pu très bien s'opposer à la volonté de son Père. Quand à Gethsémani il dit « Que ce calice s'éloigne de moi », on voit bien qu'il est au bord d'une forme de rupture, il est au bord d'une grande, grande souffrance. quand il dit que qu'il lui dit qu'il se sent abandonné du Père. Alors il y a l'état de mystique qui l'explique très bien, mais à ce moment-là, on voit bien que Jésus est allé au bout du bout du bout du bout. Qu'est-ce que fait Jésus quand il va sur la montagne et qu'il prie? Il s'unit à son Père et son Père l'aime. Et c'est le fruit de cet amour qui va lui permettre ensuite de choisir ses apôtres, par exemple. Quand on voit Jésus guérir, il ne guérit pas pour se faire plaisir. Il ne guérit pas pour la gloire qu'il pourrait en tirer. Il le fait parce que c'est un signe de la résurrection et que son Père lui demande. Rien de ce que fait Jésus, il ne le fait sans que la volonté, sans que ce soit l'expression de la volonté du Père. Et vous voyez, ça change tout. Parce que quand Jésus voit arriver Judas, il sait très bien ce qui va se passer. Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il dit à Judas? Comment est-ce qu'il accueille Judas? Il lui dit « Mon ami ». Et Jésus, quand Jésus dit ça, c'est qu'il l'aime vraiment. Il montre vraiment son amour à Judas. Et quand Judas ensuite va se rendre compte de ce qu'il a fait et qu'il jette l'argent dans le temple et qu'il se repent de l'avoir fait. Alors évidemment, la solution qu'il va ensuite mettre en œuvre n'est pas la bonne. C'est pas bien de se suicider. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la miséricorde, de l'ordre d'un retour sur soi qui est entré dans son cœur. Allez voir le père Rainero quant à la Messa, il a des paroles extraordinaires sur ce sujet-là. D'où est-ce que ça vient que Judas ait un peu ouvert son cœur? Parce que tout simplement Jésus, quelques heures avant, lui a dit « mon ami » et qu'à ce moment-là, la miséricorde de Dieu est entrée malgré tout dans son cœur. Vous voyez, aimer son ennemi, ce n'est pas une chose qui est facile. Si on part de nos propres émotions, si on part de notre propre volonté, de notre propre intelligence, c'est évident, c'est même impossible. Ceci dit, cette forme d'amour qui se répand comme un fleuve dans le cœur de l'homme est tout à fait réalisable à condition qu'on ait l'humilité de demander au bon Dieu d'aimer en nous. Cet amour comme un fleuve, j'ai une autre illustration à vous proposer. Ça se passe à Philadelphie et c'est le témoignage d'une serveuse d'un restaurant. Elle s'appelle Lynn Villard ou Willard. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est la fin de la soirée, il est 23h. Les clients commencent à se lever après avoir bien dîné. Et il y a un couple qui va pour payer la note et la serveuse lui dit « Mais monsieur, c'est le couple qui vient de sortir qui a payé votre note. » Alors, ils sont étonnés. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, quelque chose qui arrive dans leur cœur, comme ça peut arriver quand le Seigneur s'y met. Ils payent la note du couple d'une autre table. Et ils s'en vont. Et le couple de cette table va pour payer. Alors, la serveuse leur dit, « Ben non, c'est le couple qui vient de sortir qui vient de payer. » Alors l'amour de Dieu se répand dans leur cœur à nouveau, j'imagine que ça ne peut pas être autre chose, et ils disent « Très bien, ben nous on va payer pour cette table-là. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, insiste la serveuse, ils ne demandaient pas le prix du repas, et ils laissaient un pourboire généreux. Et, chers frères et sœurs, ça a duré 5 heures. 5 heures. C'est ça l'amour de Dieu, vous voyez. C'est ça la mesure dont Jésus parle. Si tu aimes avec cette mesure-là, si tu aimes avec la mesure de Dieu, Dieu pourra t'aimer avec sa propre mesure. Alors tu seras sauvé. Alors tu es déjà sauvé, en fait. Parce que j'imagine que dans le cœur des gens qui quittaient ce restaurant, ben l'amour de Dieu a forcément engendré la paix, et puis une joie, et puis peut-être une fantaisie, peut-être quelque chose de fou. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est un peu fou quand même. Seigneur nous demande d'aimer de façon pure, de façon libre et à sa démesure. Parce qu'en fait, de mesure, il faut reconnaître un truc, c'est que la mesure de Dieu, c'est la démesure, chers frères et sœurs. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse un choix. Et c'est là qu'à nouveau ça pique. Si on met nos conditions, si on met notre propre mesure, ça sera moins bien. Ça sera moins joyeux. Ça sera moins paisible. Ça sera moins grand. Ça sera moins fort. Ça sera la mesure de l'homme. En revanche, si au fond de notre cœur, nous prenons cette décision d'aimer à la mesure de Dieu, et qu'on demande à l'Esprit Saint de faire cette œuvre en nous, alors là, chers frères et sœurs, alors là, croyez-moi, notre vie va changer. La vôtre va changer, la mienne aussi, celle des sœurs aussi, celle des pères aussi. Vous ne croyez pas que ce soit quelque chose dont on n'ait pas besoin, nous. On se met toujours souvent des limites. Hein. Vous savez, on donne notre vie, puis après on la reprend. Du coup, on est obligé de la redonner, et ainsi de suite. La mesure de Dieu... Hein, ma sœur. Alors demandons au Saint-Esprit de faire cette œuvre tout de suite en nous. Demandons à la Sainte Vierge de nous apprendre à mieux vivre avec le Saint-Esprit et à aimer selon la mesure de Dieu. Amen.